Vers une grève dure le 5 décembre. La CFDT, vous venez de l'entendre, pourrait entrer dans la danse. Le syndicat pourrait rejoindre la mobilisation contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron compte sur sa visite à Amiens, sur ses terres natales, pour renouer le contact avec les Français. Aujourd'hui, c'est aux étudiants qu'il s'est adressé. Le président interpellé sur la précarité.
Je sais les 5 euros d'APL, je le traîne comme un boulet. Il faut le mettre au regard de tout ce qui a été fait plus largement pour les étudiants.
3 mois de prison avec sursis requis aujourd'hui contre le CRS qui avait lancé un pavé sur les manifestants lors d'une manifestation de Gilets jaunes. La disparition d'Estelle Mouzin, c'était en 2003. L'alibi de Michel Fourniret contredit aujourd'hui par son ex-femme.
Michel Fourniret n'était pas à Sarcustine, donc il était potentiellement ailleurs et notamment en train de commettre le crime qu'on lui reproche.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dénonce un coup d'État contre lui après son inculpation pour corruption notamment, qui pourrait compromettre son avenir politique. C'est fini pour les Bleus en Coupe Davis, éliminés par la Serbie de Djokovic. Une perturbation arrive par l'Ouest demain et un nouvel épisode méditerranéen est en train de se mettre en place. Il va beaucoup pleuvoir avec des orages sur les côtes. Des cumuls de pluie importants sont attendus sur les Cévennes. Une petite consolation tout de même, les températures vont remonter. Ne manquez pas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir, à 22h20, vous aurez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil, qui va revenir ce soir sur le carton de la première cotation de la Française des Jeux avec son invité, le patron d'Euronext, Stéphane Boujna.
Europe 1.
L'ombre du 5 décembre plane donc de plus en plus sur le gouvernement. Aujourd'hui, c'est le syndicat sur lequel il comptait s'appuyer pour faire passer sa réforme des retraites, la CFDT, qui menace à son tour pour la première fois de rejoindre la grande journée de mobilisation, préavis de grève reconductible, alors que les agents d'EDF ont aussi prévu de se mobiliser. Alors, est-on à un tournant ? Aurélien Fleureau, ce qui est sûr, c'est que le climat avec les syndicats s'est clairement tendu aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que ce matin, vous avez Jean-Paul Delevoye, haut commissaire aux retraites, et Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État aux transports, qui convie les syndicats de la SNCF et de la RATP à une réunion de concertation. Côté RATP, personne ne vient, réunion annulée. Et puis côté SNCF, seuls l'UNSA ferroviaire et la CFDT cheminots sont venus. 2 syndicats réformistes qui attendent des avancées, sauf qu'ils sortent de la réunion encore plus énervés, abasourdis, a dit l'UNSA, à tel point que même Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT cheminots, seul syndicat qui n'avait pas encore appelé à la grève le 5 décembre, ouvre désormais la porte à cette option.
Nous allons faire monter la pression d'un cran supplémentaire. Là, nous allons déposer un préavis de grève pour le 5. Ça ne veut pas dire que nous nous joignons au mouvement et que nous appelons à la grève pour le 5. C'est une disposition qui dit au gouvernement et qui va confirmer que si le Premier ministre ne prend pas les choses en charge très rapidement et ne répond pas clairement à nos revendications, la CFDT est susceptible d'appeler à la grève le 5 et pas une grève carrée, une grève reconductible pour obtenir satisfaction.
Et ce mouvement en vue du 5 décembre prend chaque jour un peu plus d'ampleur. Ce soir, la CFE-CGC, le syndicat des cadres, appelle à manifester le 5 décembre, ce qui est très rare. Et puis cet après-midi, 3 syndicats d'EDF ont annoncé, eux aussi, qu'ils feraient grève. Cela s'ajoute à Air France, aux enseignants ou encore à la fonction publique.
Les précisions d'Aurélien Fleureau. Notez que le patron de la CFDT, Laurent Berger, sera l'invité de la matinale d'Europe 1 demain à 8h15. Et ce mouvement du 5 décembre est en tout cas surveillé de très près par l'exécutif qui veut éviter une coagulation des revendications. Emmanuel Macron souhaite par ailleurs que les partenaires sociaux condamnent clairement les violences avant cette journée et prévient que l'exécutif sera ferme face à d'éventuels débordements. En tout cas, en prévision de cette grève, le chef de l'État bouscule son agenda. Il ne se rendra pas début décembre à Madrid pour la COP25 et son déplacement en Côte d'Ivoire est pour l'instant en suspens. Le président qui est à Amiens pour 2 jours. Demain, il rencontrera les anciens salariés de Whirlpool. Mais aujourd'hui, c'est aux étudiants que le chef de l'État s'est adressé, interpellé sur la précarité. Le reportage sur place de Jean-Rémy Baudeau.
Dans un amphithéâtre devant des étudiants, le président en mode grand débat, questions-réponses. Et très rapidement, les conditions de vie ont été abordées par les jeunes.
Alors que la précarité existe de bel et bien depuis plusieurs années, vous diminuez de 5% les APL pour les étudiants. Le ticket rue augmente de 5 centimes. L'accès aux aides sociales est de plus en plus illisible.
Emmanuel Macron qui tente d'expliquer, qui revient sur les mesures qu'il a pu prendre ces derniers mois pour les étudiants, appelant à être jugé sur son bilan.
Si vous commencez à dire les faits, il faut être honnête, il faut dire tous les faits. Je sais les 5 euros d'APL, je le traîne comme un boulet. Il faut le mettre au regard de tout ce qui a été fait plus largement. Pour les étudiants, il y avait avant 217 euros par an de sécurité sociale étudiante qui ont été supprimés. Si vous ne le dites pas, c'est pas honnête.
Le président sur ses terres natales qui tente de convaincre qu'il n'a pas baissé les bourses, que les jeunes ne sont pas les oubliés de ce quinquennat. Emmanuel Macron sur la défensive, sur la vie étudiante, sur le climat. L'accueil est poli, mais les étudiants semblent perplexes sur les réponses apportées par le président.
Jean-Rémy Baudot qui suit donc pour Europe 1 cette visite d'Emmanuel Macron à Amiens.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h05, merci d'écouter Europe 1. C'est la suite de votre journal. Et la piste fournirait peut-être relancée dans l'affaire de la disparition d'Estelle Mouzin en 2003. En tout cas, l'alibi avancé par le tueur en série a été contredit aujourd'hui par son ex-femme, Monique Olivier, devant la juge d'instruction. Chloé Triomphe, cette dernière affirme que le jour de la disparition de la petite fille en Seine-et-Marne, Michel Fourniret n'était pas chez lui, contrairement à ce qu'il a toujours déclaré.
Oui, 16 ans après la disparition d'Estelle Mouzin à Guermantes en Seine-et-Marne, et alors que Michel Fourniret avait toujours affirmé qu'il se trouvait à 450 km de là, à son domicile à Sarcustine en Belgique le soir même, où il aurait passé un coup de téléphone à son fils, Monique Olivier vient de faire tomber son alibi, une révélation qu'espérait son avocat, maître Richard Delgenès, sans trop oser y croire jusqu'à ce soir.
Je pensais en arrivant qu'on aurait une audition de Monique Olivier un peu mi-figue mi-raisin, un peu en demi-teinte, en nous disant qu'elle ne se rappelait pas. Et en réalité, ce qu'elle a indiqué au juge d'instruction, c'est qu'en partant le matin, Michel Fourniret lui avait dit « tu appelleras Jean-Christophe », Jean-Christophe étant le fils de Michel Fourniret, ce qui signifie concrètement que Michel Fourniret n'était pas à Sarcustine. Donc il était potentiellement ailleurs et notamment en train de commettre le crime qu'on lui reproche.
Cet aveu de Monique Olivier, c'est le fruit d'un long travail, d'une évolution personnelle, mais aussi d'un climat de confiance instauré avec la juge d'instruction Sabine Kéris et qui relance sérieusement la piste Fourniret dans ce dossier.
Les précisions de Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. La famille de l'adolescente morte lundi lors de l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn lance un appel au calme après des menaces à l'encontre de la famille du chauffeur du camion. Les proches de la lycéenne ont envoyé un courrier au quotidien La Dépêche du Midi dans lequel ils expliquent que la famille du chauffeur avait gardé leur fille lorsqu'elle était petite. « Nous ne sommes pas dans la haine, mais dans la souffrance », disent-ils. Les premiers éléments de l'enquête, on le rappelle, laissent penser que le poids excessif du camion a fait céder le pont. 3 mois de prison avec sursis requis contre le premier policier jugé à Paris pour violence volontaire lors d'une manifestation de gilets jaunes. Il avait lancé un pavé en direction de manifestants le 1er mai dans la capitale. Marion Dubreuil, vous avez suivi cette audience dans un climat serein, bien loin des tensions du 1er mai.
Oui, sans doute parce que face au prévenu, un CRS de 44 ans avec la carrure de l'emploi, il n'y a pas de plaignant. Le pavé, rappelle l'avocat du policier, n'a fait aucun blessé. La seule victime présente dans la salle est un autre policier. Il s'agit du capitaine du prévenu. Le 1er mai, il a reçu un pavé en plein visage, sous les yeux de son collègue. Quand j'ai vu sa plaie béante, j'ai pris peur, confie le policier à la barre. C'était une heure à peine avant que lui-même ne saisisse un pavé et le lance en direction des manifestants. Pourquoi ce geste, demande le juge. Par réflexe, répond le policier, pour un repli stratégique pour nous protéger. Le policier s'en mêle un peu mais refuse de parler d'emportement. Les vidéos ne permettent pas d'y voir beaucoup plus clair. Maître Boguet grossit le trait en désignant son client sous le surnom du méchant CRS tout en déroulant son CV et cette médaille de bronze l'an dernier pour acte de courage et de dévouement. Ce n'est pas le procès de la police, se défend la procureure. Elle requiert 3 mois de prison avec sursis pour ce geste qui aurait pu occasionner de graves violences. Le président, conscient que sa décision est déjà critiquée avant même d'être rendue, annonce un délibéré au 19 décembre prochain, 1 mois pour prendre le recul nécessaire.
Marion Dubreuil qui a suivi cette audience pour Europe 1. S'éclairer à la bougie, pourquoi pas? Mais dans la Drôme, ça fait une semaine maintenant que ça dure et les habitants concernés n'en peuvent vraiment plus. Ils sont encore 3500 à vivre dans le noir et dans le froid. La maire de Portes-les-Valences a écrit à Emmanuel Macron pour dénoncer la durée insupportable de ces coupures. Nous ne pouvons plus, écrit-elle, assumer pour vous indéfiniment les défaillances de l'État. Enedis promet un retour à la normale d'ici dimanche. Une nouvelle vidéo choc de l'association L214, filmée cette fois dans un élevage intensif de porcs dans le Finistère. Des animaux dans des conditions d'hygiène déplorables, enfermés dans des enclos crasseux avec des cadavres qui jonchent le sol au milieu des animaux vivants. Pour la première fois de l'année, le livret A a enregistré plus de retraits que de dépôts. Première décollecte donc au mois d'octobre pour le placement de moins en moins préféré des Français. 16 migrants découverts enfermés dans la remorque d'un camion sur un ferry parti de Cherbourg et en direction de l'Irlande. Ils étaient en bonne santé. On se souvient qu'il y a quelques semaines, les corps sans vie de 39 migrants vietnamiens avaient été retrouvés dans un conteneur près de Londres. Pour la première fois depuis le début de la crise migratoire en 2015, la France a dépassé l'Allemagne pour devenir le premier pays pour les demandes d'asile en Europe, alors même que les entrées en Europe continuent de baisser. C'est une anomalie statistique, estime Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui à Grenoble, un campement d'une centaine de migrants originaires d'Europe de l'Est a été évacué pour la troisième fois cette année. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, mis en examen aujourd'hui dans trois affaires différentes pour corruption, fraude et abus de confiance. C'est un coup de tonnerre. Le chef du gouvernement, fragilisé ces derniers mois, dénonce un coup d'État et assure qu'il ne démissionnera pas. Les précisions de Marine Igli à Jérusalem.
C'est un triste jour, a déclaré le procureur général israélien Avirai Mandelblit, avant d'annoncer en direct à la télévision la mise en examen de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, dans trois affaires pour corruption, fraude et abus de confiance. Le chef du gouvernement est notamment accusé d'avoir accordé ou proposé des faveurs à des patrons de presse en échange d'une couverture favorable dans leurs journaux. Et dans une troisième affaire, il aurait reçu des cadeaux de la part de milliardaires, probablement là aussi en échange de bons procédés. Mais à peine une heure plus tard, Benjamin Netanyahou riposte et dénonce un coup d'État contre lui. « Tout cela est destiné à me faire tomber », explique-t-il, « mais je ne suis pas prêt d'abandonner ». C'est la première fois qu'un premier ministre israélien en exercice est mis en examen et cela pourrait lui coûter très cher. Au pouvoir pendant 13 ans, Benjamin Netanyahou est aujourd'hui encore Premier ministre, mais c'est uniquement parce que ni lui, ni ses adversaires n'arrivent pour le moment à former un nouveau gouvernement après les élections de septembre dernier. Jérusalem, Marine Igli pour Europe 1.
Un mot de sport avec le tennis et la France qui a été éliminée dès la phase de groupe de la Coupe Davis, nouvelle formule à Madrid. Après sa défaite contre la Serbie à l'issue des deux simples, Joe Wilfried Tsonga a été battu par Krajinovic en ouverture et Benoît Paire n'a rien pu faire face à Novak Djokovic. La victoire en double n'a rien changé. Écoutez les regrets ce soir de Sébastien Grosjean, le capitaine des Bleus.
Bien évidemment, on est tous très déçus. On voulait aller au bout dans cette compétition. Mais en fait, sur la première journée, quand on joue le Japon, où en fait c'est peut-être l'équipe la moins forte du groupe, on se doit de gagner 3-0, tout simplement. Parce que même avec la défaite aujourd'hui 2-1, on peut finir meilleur deuxième et continuer dans l'aventure. Alors oui, on aurait joué l'Espagne, peut-être, mais on était toujours vivants. Donc voilà. On le savait dès le départ que tous les points allaient compter, tous les sets également, parce que ça joue comme ça. Donc voilà, il y a la déception, mais je crois qu'il faut féliciter les Serbes qui sont de ce groupe et qui méritent.
Le capitaine des Bleus, déçu forcément. Sébastien Grosjean au micro européen de Corinne Boulou à Madrid. En foot, Neymar sera de retour demain soir pour affronter Lille en ouverture de la 14e journée de Ligue 1. Incertitude en revanche pour Mbappé qui est toujours malade. L'attaquant parisien pourrait rester au chaud pour être d'attaque mardi lors du choc contre le Real Madrid en Ligue des Champions. C'est un match que vous pourrez vivre en direct et en intégralité mardi donc sur Europe 1. Et on jette un œil tout de suite sur la météo.
Peu importe qu'il pleuve ou qu'il neige, les pneus 4 saisons Hankook s'adaptent à la route. Hankook vous présente la météo.
Anissa Haddadi, encore du mauvais temps demain dans le sud.
Oui, effectivement Isabelle, avec encore un nouvel épisode méditerranéen sur les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard et même jusque sur les Cévennes. Demain, la journée va se dérouler donc sur la pluie dans tous ces départements, des pluies fréquentes, marquée sur le relief et même orageuse sur les côtes. Dans l'après-midi, ces pluies elles vont se décaler jusque sur l'Hérault avec attention, grande prudence sur les Cévennes. Demain, des cumuls très importants. Une nouvelle perturbation arrive aussi par l'ouest demain dans la matinée avec un ciel voilé. Mais dans l'après-midi, de la Bretagne au Pays Basque, un ciel très chargé, très nuageux, avec des pluies très fréquentes et très soutenues. Alors sur les côtes atlantiques, le vent souffle aussi. C'est le vent du sud qui souffle demain jusqu'à 80 km/h. Du coup, grâce à ce vent du sud, et ça fait plusieurs jours que je vous en parle sur Europe 1, les températures, elles remontent. Et bien ça y est, enfin, on la sent la tendance. 0 degré à Tarbes, plus de température négative. 2 degrés à Clermont-Ferrand et Strasbourg en moyenne demain matin. 6 degrés à Paris, 11 à Ajaccio. Et dans l'après-midi, 6 à 17 de Strasbourg à Bastia et nous aurons 11 degrés à Paris.
La météo signée Anissa Haddadi.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le patron d'Euronext, c'est Stéphane Boujna avec qui il reviendra bien sûr sur le carton de la première cotation de la Française des Jeux. A tout de suite sur Europe 1. Il Il est 22h17, merci d'écouter Europe 1. Et comme tous les soirs à cette heure-ci, on s'intéresse maintenant à la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui recule encore un peu plus ce soir.
Oui, une nouvelle séance dans le rouge avec un Dow Jones en repli de 0,20%, 27 804 points. Le Nasdaq recule de 0,24%, 8 516 points. Les marchés américains qui restent empêtrés dans la guerre commerciale qui oppose les États-Unis et la Chine. Les négociations sont difficiles avec un président Donald Trump souvent imprévisible.
Ah oui.
Et puis le Congrès américain a voté une motion qui soutient les manifestants pro-démocratie à Hong Kong. Et ce vote ne plaît pas du tout à Pékin qui n'aime pas qu'on se mêle de ses affaires. La situation reste donc très tendue. Du côté des valeurs, Xerox gagne 1%. Le groupe menace de lancer une OPA hostile sur le fabricant américain de matériel informatique HP. HP a déjà rejeté une première proposition à 33,5 milliards de dollars. Et puis Tiffany gagne 2,6%. LVMH a relevé son offre sur le joaillier américain, selon l'agence de presse Reuters. Le groupe français aurait soumis une nouvelle proposition plus généreuse à près de 16 milliards de dollars. Le pétrole termine en forte hausse, plus 2,5% pour le WTI à 58,42 $. Et l'euro perd 0,1% et s'échange contre 1,1058 $.
Le CAC 40, lui, recule. Et la star du jour, bien sûr, à Paris, c'est la Française des Jeux.
Oui, un petit repli pour le CAC 40, moins 0,22%, 5 881 points. Et une séance marquée, bien sûr, par les premiers pas en bourse de la Française des Jeux. Premier pas réussi pour la Loterie Nationale. Le titre flambe de 16,4%. La hausse de l'action induit une capitalisation boursière légèrement supérieure à 4,3 milliards d'euros. Alors à suivre, bien sûr, puisqu'une première bonne journée en bourse ne garantit pas forcément un avenir doré. On se souvient, par exemple, d'Engie, malgré de bons débuts, eh bien, le titre affiche un repli de près de 40% depuis sa première cotation. C'était en 2005.
Et on va y revenir dans un tout petit instant, d'ailleurs, avec notre invité, le patron d'Euronext. Claire, les valeurs sensibles au commerce, elles restent sous pression.
Oui, c'est du rouge pour ArcelorMittal, pour le luxe également. Kering et Hermès perdent 1,5%. Et puis Sanofi s'en sort nettement mieux après des informations de l'agence Bloomberg, plus 2,4% pour Sanofi. Le groupe pharmaceutique envisage différentes options pour ses activités de santé grand public qui pourraient être valorisées 30 milliards de dollars. Les marchés européens ont clôturé en baisse ce soir. Francfort est quasi stable, moins 0,02%. Londres, 7,03%. Madrid, moins 0,1%. Milan, moins 0,3%. Bruxelles perd 0,6%. Et le CAC 40 recule de 0,2% à 5 881 points.
Merci pour ce tour d'horizon. Claire Lemaître de boursier.com. Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité éco.
L'invité éco avec laposte.fr/pro pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir le patron d'Euronext.
Bonsoir Stéphane Boujna.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le patron d'Euronext. Euronext, c'est l'opérateur qui gère notamment la Bourse de Paris. C'était l'événement ce matin, l'occasion de l'entrée en bourse de la Française des Jeux. La cloche a même sonné chez Euronext, ça n'arrive plus tous les jours. C'est-à-dire qu'une telle introduction, ce n'est pas si courant. J'ai lu que c'était l'une des plus grosses introductions de ces 20 dernières années. C'est dire si on n'a pas introduit beaucoup d'entreprises quand même dans ces dernières années en France.
Non, il y a eu pas mal d'introductions, mais de cette taille, et surtout dans le cadre d'une privatisation, c'est assez rare. La dernière privatisation était celle de GDF, et la dernière opération de cette taille était celle de Natixis. Enfin, évidemment, c'est plus petit que Natixis, mais c'est quand même, ça faisait depuis une bonne dizaine d'années, un peu plus même, qu'on n'avait pas eu d'opération de cette taille et dans le cadre d'une privatisation.
C'était donc l'événement ce matin,
quand on sonne la cloche. Bruno Le Maire est venu pour sonner la cloche, et parce que tout simplement, ça a été une opération rondement menée, très efficace. Stéphane Pallez, la dirigeante de l'entreprise, a vraiment conduit ce processus avec beaucoup de détermination. Et puis, il a fallu aligner les intérêts patrimoniaux de l'État, les intérêts de croissance de l'entreprise, les intérêts de la régulation de l'activité, parce que ce n'est pas n'importe quelle activité, le jeu. Et tout ça a été fait avec pas mal d'efficacité et a rencontré un appétit massif à la fois des investisseurs institutionnels et puis des ménages. C'est un succès populaire, comme l'a dit Bruno Le Maire.
Oui, il y a eu un peu plus de 500 000 Français qui ont souscrit des actions. Bruno Le Maire a dit c'est la réconciliation des Français avec les marchés financiers. On n'y est peut-être pas encore quand même.
Ah, je crois qu'il a raison. Je crois qu'il s'est passé quelque chose, que cette opération a été le catalyseur d'un retour des Français vers la bourse. Mais vous savez, ce retour, il n'est pas lié simplement au fait qu'il y ait une opération emblématique aujourd'hui. Il est produit par des tendances très profondes. La première, c'est que la fiscalité a beaucoup changé. À partir de 2013, quand vous achetiez une action et surtout quand vous la revendiez, on pouvait vous prendre en fiscalité jusqu'à 60 à 80% du gain. Désormais, avec la fameuse flat tax, le prélèvement forfaitaire, on est à des niveaux de prélèvement qui sont proches de ceux de nos voisins à 30%. Et puis la deuxième chose qui fait que le retour vers l'investissement en actions est plus attractif, c'est que par rapport à des investissements en obligations, dans ce qu'on appelle des produits de taux, quand vous achetez des produits avec des taux garantis mais faibles, eh bien ces taux se sont effondrés. Les taux d'intérêt ont beaucoup baissé. Ils sont même parfois négatifs, c'est-à-dire que vous devez payer pour placer votre argent. Quand vous achetez ces produits-là, vous perdez du capital, votre argent fond. Quand vous ajoutez l'effet de l'inflation, l'effet des coûts de gestion, votre argent fond. Et si vous voulez un peu de rendement, il faut désormais acheter des actions. Et c'est ça que montre cette opération.
Alors,
c'est
même
le retour
si là,
vers les actions.
On est sur un cas très spécifique. La Française des Jeux, c'est une entreprise très sûre. On est sûr qu'elle va rester rentable pendant quelques années. On savait que les gens qui allaient miser dessus prenaient un risque limité pour les années à venir. Mais vous pensez que c'est quand même une sorte de déclencheur où certains vont se dire « Bah tiens, je devrais peut-être re-regarder les actions puisque... » On sait que les Français ont fui littéralement les marchés financiers après les différentes crises.
Ils ont fui les marchés après les différentes crises. Ils l'ont fui surtout avec la fiscalité punitive de 2013.
Vous pensez que c'était pire que la crise ?
Ah, je pense que les deux effets, oui. Quand vous regardez qu'est-ce qui vous reste à la fin de la fin de la fin, il vous reste le rendement de l'actif, moins les frais de gestion, moins l'inflation, moins la fiscalité. La fiscalité punitive de 2013 a été la cause d'une accélération du départ des Français de la bourse. Bien sûr, le fait d'avoir perdu beaucoup en valeur en 2008, 2009, 2010 pendant la crise était un élément. Mais quand vous regardez sur une période longue, on a coutume de dire du mal des privatisations, mais sur une période longue, bien sûr, il y a eu des problèmes avec le rendement d'un investissement dans EDF ou dans Orange. Mais quand vous regardez toutes les autres opérations comme EADS, Airbus, Safran, enfin Snecma, Safran,
Renault,
etc., ce sont de très bonnes affaires et ceux qui ont participé à ces privatisations ont gagné énormément d'argent. Donc je crois que la Française des Jeux était...
Pour vous, c'est une sorte de détonateur qui va donner envie à des gens de revenir.
On peut appeler ça le catalyseur ou le détonateur, mais c'est l'événement qui va permettre aux gens de se dire « Tiens, les produits obligataires ne rapportent pas grand-chose ou rien. La fiscalité a changé. Peut-être que c'est le moment de revenir vers les actions. »
Est-ce que ça peut aussi doper la place de Paris, cette fois du côté des entreprises, puisqu'il n'y a pas énormément de grosses introductions en bourse sur la place de Paris? Il y en a encore eu récemment. Il y a eu
Verallia le mois dernier.
Qui est un spécialiste du verre.
Ouais, qui était une très belle opération industrielle qui montrait que des entreprises industrielles assez largement établies en Europe et particulièrement en France, qui ont été privatisées par un groupe très performant comme Apollo, a pu réaliser une très belle opération dans des conditions de marché qui étaient un peu plus chahutées que cette semaine.
Mais est-ce que vous pensez quand même que là aussi ça met un projecteur positif, ou c'est une opération tellement à part de privatisation?
Non, je crois que vous avez raison de dire que ça met un coup de projecteur positif sur un appétit renouvelé des investisseurs, à la fois institutionnels et retail, et enfin des ménages, pour la classe action dans un portefeuille d'investissement.
Alors Euronext exploite la Bourse de Paris, mais heureusement pour vous, vous n'êtes pas que ça. Vous avez Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Dublin, et depuis peu, vous avez également acquis la Bourse d'Oslo. Mais vous voulez continuer à grossir, puisque vous voulez également acheter la place de Madrid. Vous êtes en compétition en ce moment pour essayer de mettre la main dessus. C'est pas anecdotique parce que, allez, c'est à quelque chose près la même taille de Paris. C'est une très grosse place.
Oui, c'est plus petit que Paris, mais c'est vrai que vous trouvez en Espagne des capitalisations boursières très importantes comme Telefonica, comme BBVA, comme Santander, qui sont des banques très importantes, des banques de dimension mondiale, c'est parfois très proche en valeur aux banques françaises comme BNP. Et puis, c'est un marché où il y a beaucoup d'investisseurs individuels.
Qu'en France ?
Oui, c'est un marché où les ménages investissent beaucoup directement en actions, un peu comme en France il y a 20 ans. Et donc, c'est un pays intéressant pour construire le projet d'Euronext, qui est de créer la colonne vertébrale de l'union des marchés de capitaux. Ces discussions peuvent conduire à une transaction ou peuvent ne pas conduire à une transaction en fonction du dialogue qu'on est en train d'avoir avec le Conseil.
Eh bien, ce sera à suivre. Un grand merci d'être passé ce soir par Europe 1. Stéphane Boujna, le patron d'Euronext, était notre invité. On se retrouve demain, 22h20, sur Europe 1.
Merci à vous et à demain, Emmanuel Duteil.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
Et dans un instant sur Europe 1, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? A tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Retraite, le ton monte, titre Les Échos. On en parlait tout à l'heure dans le journal, évidemment. Les appels à la grève contre la réforme se multiplient pour le 5 décembre. La CFDT met en garde contre tout allongement de la durée du travail, alors que le gouvernement, lui, estime que les Français devront travailler plus longtemps. Retraite, le flou persiste. Les syndicats se braquent, titre Le Figaro. C'est un peu l'heure des grandes manœuvres et des coups de bluff, écrit Christophe Bonnefoy dans le journal de la Haute-Marne. À moins de 15 jours de cette manifestation du 5 décembre, ça ressemble même à de l'emballement. Tout s'accélère du côté des syndicats comme du président de la République et du gouvernement. À juste titre, sans doute, l'exécutif redoute la grève à la SNCF et à la RATP. On ne parle plus d'une journée unique de contestation, mais d'un mouvement reconductible auquel la CFDT cheminots s'est d'ailleurs ralliée aujourd'hui. Ce qui était à la base un rendez-vous fixé uniquement par les cheminots se transforme de plus en plus en un point de convergence de toutes les colères. C'est là tout le danger pour Emmanuel Macron qui tente ainsi de désamorcer la situation avant qu'elle ne devienne totalement ingérable. Dans le journal La Montagne, Florence Chédotal revient quant à elle sur la visite du chef de l'État à Amiens aujourd'hui et demain. Le retour de l'enfant du pays, écrit-elle. Picard est fier de l'être, il revient aux sources, là où il est né, là où il a donné naissance à En Marche un soir d'avril 2016. Là où il est venu à la rencontre des ouvriers de Whirlpool dans un ballet médiatique surréaliste avec Marine Le Pen entre les deux tours. Là où il espère renaître et trouver les moyens d'enjamber ce mur du 5 qui grimpe. Ce n'est pas tant le 5, conclut la journaliste, mais les jours d'après qui écriront l'histoire sociale. Et puis, nucléaire, l'Église dit non, c'est le titre du journal La Croix demain matin. Dans son édito, Jean-Christophe Ploquin rappelle que ce sera l'un des temps forts de la visite du pape François au Japon. Dimanche, il se rendra à Hiroshima et à Nagasaki, ville ravagée par des bombes atomiques larguées par l'aviation américaine en août 1945. Le pape qui prononcera sur place un appel à la disparition des armes nucléaires. Et voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1. Vous êtes en compagnie d'Olivier Delacroix, bien sûr, comme tous les soirs à cette heure-ci pour votre libre antenne. Et je vous dis à tout à l'heure, 23h, pour un nouveau point sur l'info. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle et à tout à l'heure.